Retrouvez-nous sur radiojudaïca.be.
Auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes le lundi 22 novembre 2021. Il est 20h et comme tous les lundis à cette heure-ci, on joue la prolongation.
En retrait pour Giresse, en retrait pour Giresse, la tête dans le paquet, et
reprise
de...
Goal
pour la
Messi. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, mais sur le coup, vous êtes un salaud.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition d'On joue la prolongation. Alors avec moi ce soir...
Quel que soit
non,
le temps,
ça n'est pas William Scheller, non, non. Et nous avons dans un studio
je veux être
un homme heureux très certainement, un homme heureux, c'est le fondateur de l'agence de communication et de marketing sportif Sportimize, mais aussi le directeur de la communication de l'Union Saint-Gilloise. Alexandre Demeter, comment vas-tu, Alex ?
Je vais très bien, comme le club,
très
le champion d'automne.
Exactement. Avec nous ce soir aussi, eh oui, face à lui, une voix que nos auditeurs connaissent bien, puisque vous le retrouvez chaque matin aux commandes de la matinale. Lui, par contre, il ne doit pas être tout à fait heureux ce soir, en raison des performances récentes de son club de cœur, hein, les Blauwenswart. Bonsoir Didier Cohn, salut Didier, comment tu vas ?
Salut Sam, salut Alex, et c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi pavoiser en ce moment, mais bon, c'est long le championnat.
C'est vrai.
On y croit, on se bat.
On peut pas l'arrêter maintenant, stop the count.
Ça pourrait être une idée, je vois ce que tu veux dire. Ben, on va parler de tout ça, et on va commencer tout de suite, le coup d'envoi, c'est parti. On va commencer à tout seigneur, tout honneur. J'ai l'impression que je dis ça toutes les semaines.
C'est pas faux.
On commence par bien sûr, la 15e journée de Jupiler Pro League. Et on commence par ce match au stand Union Saint-Gilloise. Un champion d'automne. Quel match, quelle victoire fracassante des Apaches de l'Union Saint-Gilloise. Victoire 1-7. Rien qu'à dire comme ça, le score est impressionnant. Quel match, on va pas le détailler tout le match, mais il y a eu des moments qui ont été des moments de grâce. Moi, je vais lancer le sujet. Enfin, le deuxième but, c'est un deuxième but où les Saint-Gillois parviennent à enchaîner 4 passes à une touche de balle dans la surface, sans être gênés par la défense. Ça va à une vitesse et à la conclusion. Undav, qui en est déjà à ce moment-là son deuxième but du match, il surgit à point nommé, comme on dit. Mais quelle vitesse d'exécution, on se trouve les yeux fermés. C'est un soir comme ça où tout a l'air de bien tourner.
Ben, j'ai envie de dire, on se dit ça chaque semaine.
Ouais,
et en même temps, il n'y a pas de hasard quand ça se répète autant de fois.
Non, il n'y a pas de hasard dans cette équipe.
J'imagine. Et peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire... Je pense que Felice Mazou, s'il était ici, nous dirait le contraire. Mais honnêtement, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut critiquer cette équipe aujourd'hui. On la voit jouer, franchement, à tous les niveaux. Alors, il y a des erreurs, bien sûr, sinon on ne prend pas de but. Et la preuve en est, c'est que le but qu'ils encaissent, c'est cadeau maison. Mais franchement, moi, j'ai rarement vu une équipe mener 1-4 à l'extérieur, qui joue la tête, qui est promue en plus... et qui à la 89e minute, parce que l'arbitre n'a pas donné de temps complémentaire, non, heureusement.
Il a été magnanime.
Magnanime pour les Ostendais. Eh bien, à la 89e, et on en parlait avec Alex avant le début de l'émission, à la 89e minute et 50 secondes, l'Union était encore en pressing.
Ouais.
Je veux dire, c'est du jamais vu, c'est des ovnis, quoi, dans cette D1A.
Ça veut dire qu'ils suivent bien les règles du coach et
tout
ce que Felice leur demande.
Mais j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on peut rien critiquer de cette équipe ? Que ce soit au milieu, derrière, devant, rien à dire. Meilleure attaque, meilleure défense. On se disait ça aussi, Sam. Même si on se dit, OK, ils ont pas la chance, la réussite. Mais en même temps, meilleure attaque, meilleure défense, c'est tout. Ça s'arrête là. Et une fois qu'on voit ces chiffres-là, ben, on ne se demande plus qui est champion d'automne.
Oui, le champion d'automne à deux journées de la fin de la phase aller, comme tu le disais. Et comme tu le disais aussi, ils sont meilleure attaque, meilleure défense. 40 buts marqués.
Mais quelle meilleure attaque, hein, ouais. Parce qu'ils ont 10 ou 12 buts d'avance.
12 buts d'avance sur... C'est étonnant. C'est étonnant. Henri, si tu nous écoutes, on te salue. Ils ont 12 buts d'avance sur Anderlecht. Ils se trouvent la deuxième meilleure attaque à égalité avec Genk.
Oui, mais ils n'ont pas eu de chance, Anderlecht. Ils auraient dû gagner 4 à 5-0 d'après Van Hout.
Ah, ça, on va y venir. et meilleure défense avec seulement 14 buts encaissés. C'est vrai que c'est un jeu d'équipe hyper solide et plus que solide, parce que c'est pas solide le bon terme. C'est des joueurs qui se donnent à fond, et on a vu quelques... Moi, j'ai regardé sur quelques reconversions, on les voit, ils cavalent pour revenir parce qu'ils montent pour mettre le surnombre, pour venir jouer devant même les arrières. Et par contre, quand il faut revenir, eh ben, on voit tout le monde cavaler revenir.
Toute proportion gardée, ils m'ont rappelé Bruges à Leipzig. Et contre le PSG, d'une certaine manière, à part que Bruce a duré qu'une mi-temps. Tandis que là, bon, en face, c'est pas Leipzig, c'est effectivement Ostende. Mais ça a joué 90 minutes. Et ça m'a rappelé, je te le disais, alors, encore une fois, avec tous les guillemets nécessaires, le match de City contre United, où City, j'avais l'impression que c'était une équipe de volleyball. Ça tournait dans tous les sens. Tous les joueurs allaient à toutes les places. Et t'avais toujours l'impression qu'il y avait 11 joueurs qui jouaient contre une équipe de 50 joueurs. Et c'est à peu près ça qu'il y avait hier pour les Ostendais. Ils savaient pas quoi faire. Ils avaient toujours deux gars sur eux, quoi qu'il arrive. Et s'il n'y en avait pas deux directement, il y en avait un dans leurs pieds et un autre qui coupait tous les angles de passe. Franchement, chapeau pour Felice Mazzu d'avoir mis un schéma aussi net en place. Et surtout, chapeau aux joueurs d'avoir obtempéré, d'avoir pu produire sur le terrain ce qu'il y avait dans la tête de l'entraîneur. Et c'est là que l'alchimie prend. Et je pense que c'est ça la force d'un Mazzu, c'est qu'il arrive à insuffler à cette équipe d'abord la grinta, ok, mais il arrive à faire comprendre sa vision du foot, ce que Pep Guardiola n'arrive pas toujours à faire, tout Pep Guardiola qu'il soit.
Oui, enfin, c'est des comparaisons. Quand tu dis dans le jeu, par exemple, le deuxième but, tiki-taka, etc. Effectivement, il y a des comparaisons. Mais ici, surtout, c'est une bande de potes. C'est une unité, c'est une famille. Ils sont ensemble à l'entraînement, certes, mais après les entraînements aussi. Et c'est vraiment... C'est un groupe de potes.
Et il n'y a pas encore d'individualité. En espérant que ça reste comme ça, c'est vraiment une équipe.
Mais même, tu t'attends à ce que les attaquants, par exemple, dans certains clubs, ils ont ce challenge d'être meilleur buteur ou d'être meilleur passeur ou de faire des actions. Et ici, tu vois, et franchement, Denis Undav, par exemple, il a envie que Dante marque des buts aussi. Ils se partagent les pénaltys.
Sur le dernier but, il faut qu'on s'accorde parce que dans certains médias, ils disent qu'Undav a fait un hat-trick et dans d'autres, ils disent qu'il a marqué 4 buts parce qu'on ne sait pas s'il l'a touché ou pas. Mais ça, tu pourras peut-être nous le dire.
Bon, je crois qu'il dit qu'il effleure, mais la Ligue l'a en tout cas accordé à Undav là tout à l'heure.
Et auprès de Van Zer.
La Ligue l'a accordé cet après-midi. Undav a 14 buts. Enfin, Denis Undav a 14 buts. Dante Van Zer a un assist en plus. Donc il a fait 2 assists hier.
D'accord. Mais tu vois Koundav, quand ce but rentre, je pense que c'était plutôt un centre que Dante voulait faire plutôt qu'une louche dans le but. Mais tu vois presque, ils lui disent non, c'est toi. C'est marrant parce que ils le mettent dans leur short, quoi.
On peut voir ça comme ça. Moi, j'avais l'impression surtout qu'il est suffisamment malin pour savoir qu'il a peut-être une chance d'être hors jeu, peut-être s'il la touche. Donc il dit tout de suite, c'est pas moi, je l'ai pas touché en tout cas. Comme ça, si elle va directement dans le but, c'est Van Zer.
Il a dit à l'interview à la TV après qu'il a touché du nez et que son nez était trop gros.
Mais non, c'est j'arrive pas. Toutes les semaines, on revient dessus. J'ai pas de superlatif pour qualifier la performance. Là, c'était vraiment une performance exceptionnelle. Le score en dit long.
C'est une tornade. Sur 10 à la DH, c'est quand même Undav. Il a reçu 10 sur 10 et non négociable.
Après, 4 buts, 1 assist, tu gagnes 1-7, tu as le titre de champion d'automne.
Oui,
toute l'équipe et tout le staff mérite un 10 sur 10.
Qu'est-ce qui peut expliquer, il y a forcément une part de, pas d'irrationnel, mais il y a forcément une part de choses qu'on arrive, le football, tout ne s'explique pas sur le papier, tout ne s'explique pas en statistiques. Est-ce qu'il faut aller chercher, alors bien sûr Felice Mazzu inculque des principes de jeu, des principes sans doute pas de vie, on va peut-être pas aller jusque-là, mais enfin en tout cas de vie de groupe sans doute. Est-ce qu'il faut aller chercher aussi dans le parcours de certains joueurs le fait que ben voilà qu'ils soient capables de d'obéir aux ordres de l'entraîneur qui réussissent à être à ce point-là bien concentrés sur leur tâche. Des joueurs, je pense par exemple à Burgess qui jouait en D3, D4 anglaise,
Portsmouth.
Voilà, qui réussit. Enfin, qui voilà. Est-ce que moi j'imagine en tout cas que c'est le genre de formation qui a pu ou de parcours de vie qui a pu les former pour arriver aujourd'hui sans avoir un ego surdimensionné.
Christiane, par exemple, c'est déjà quelqu'un qui est très humain. C'est le seul joueur que j'ai vu. Il a été à Calais aider des réfugiés l'été dernier, par exemple. Donc il a ce leadership humain aussi. Il a ses valeurs, mais quand tu joues à Fratton Park, je pense, à Portsmouth, tu en vois d'autres. Même si c'est la D3 anglaise, ouais, et la D2 à ce moment-là, il a quand même été formé du côté d'Arsenal, si je ne me trompe pas. Il en a vu d'autres aussi. Mais je pense que ce que tu demandes, mais c'est très difficile, étant jugé parti, d'avoir une analyse très, très concrète là-dessus. Mais tu as, enfin, comme dans le foot en général, tu as c'est toutes ces valeurs qui se rejoignent et qui font que, comme la Grèce en 2004 par exemple, toutes ces équipes qui ont, ou qui sont pas en sur-régime, mais qui font des performances exceptionnelles, tu as vraiment toutes ces valeurs, humaines, amicales, leadership, entraîneur, tactique, et aussi la conjoncture du foot à ce moment-là qui fait que le tout fonctionne.
Pardon de t'interrompre, mais la différence que tu prenais la Grèce en 2004, c'était un football triste à pleurer. Hein.
C'était triste, mais c'était très efficace.
J'allais prendre une autre.
Et c'est efficace.
J'allais faire une autre comparaison, mais qui tu seras d'accord avec moi sans doute. Mais c'est une comparaison dans le résultat, mais sur le jeu, ça n'a rien à voir. C'était le Porto de Mourinho 2002-2003, où il y a, à part Deco qui était une star, qui est devenue une star, mais les autres joueurs, bon, il y avait des très très bons joueurs, Maniche, il y a eu les défenseurs centraux qui ont joué à Chelsea aussi, mais c'était une équipe où j'aurais envie de dire qu'il n'y avait pas une tête qui dépasse vraiment, mais c'était une équipe qui est derrière son général, qui donnait on les a pas vus venir, ils sont allés jusqu'au bout. Il y a un petit peu de ça dans l'équipe de l'Union, c'est-à-dire qu'on les a vus flamboyants l'an passé. On s'est dit bon bah c'est super, on est content de les voir revenir en première division, mais qui peut légitimement penser qu'ils vont réussir à qui pouvait penser qu'ils seraient champions d'automne, c'est incroyable.
Ça,
toi bien sûr.
Non du tout. Mais je me souviens que quand on a eu Felice Mazzu au téléphone ici même.
Oui.
Quand il a dit deux journées avant la fin, rien n'est fait, etc. On a même rigolé de ça, tu te souviens? Et je me souviens qu'on s'était dit, et on lui avait dit, mais si vous continuez de jouer comme ça, alors, on ne peut rien vous promettre, mais se maintenir en première division, il y a zéro problème. Si l'équipe pouvait continuer de performer comme elle performait l'an passé, tu vois des équipes ici,
oui, c'est
je
ne
peux pas les citer, mais OHL, Berscott, c'est triste à pleurer.
C'est vrai qu'on y a une... est-ce que c'était l'an passé particulier ou, enfin, c'est quelques années-là. Il n'y a pas une différence énorme entre une équipe qui domine la D1B et les équipes moyennes, mauvaises de D1A. Et on l'a vu, les choses peuvent s'inverser rapidement.
Exact.
C'est vrai qu'ils sont sur la...
Et tu sais ce que je note aussi, excuse-moi Alex, ce que je note aussi, c'est que finalement, quand tu regardes, et c'est ce qu'on se dit de semaine en semaine, et pas que nous, je veux dire tous médias confondus, c'est un championnat où tout le monde peut battre tout le monde. Eh bien, l'Union sort de tous ses pièges.
Ouais, c'est vrai.
De tous ses pièges. Je veux dire, finalement, ils auraient 3 points de plus et Bruges 3 points de moins, il n'y aurait rien à dire parce qu'on leur a volé la victoire. Hein. Bruges est allé.
Bon, mais
ça m'a arrangé. Mais ils ont deux défaites.
11 victoires, 3 défaites, 1 nul.
Eh bien, en même temps, ils avaient droit à une victoire de plus, j'ai envie de dire, sur le fond de jeu et sur le match en lui-même. Il n'y a rien à dire. Ils sortent de tous les pièges, que ce soit des top club, de sub-top, ou même les matchs compliqués, parce que les matchs, les équipes qui jouent pour leur maintien, ils jouent avec le couteau entre les dents, c'est pas le même football, mais ça reste quand même très hargneux, et ils se battent pour leur vie. Donc en définitive, l'Union sort et déjoue, et fait déjouer tous ses adversaires, et ça il faut saluer quand même.
Stand était piège, et OHL vendredi sera piège aussi, comme l'était Serein, et on l'a vu à la mi-temps, c'était 0-2 aussi.
Exact.
Et j'ai l'impression qu'il... Bon, on n'est pas là juste pour les encenser, pour dire que tout est parfait tout le temps.
Il
n'y
a rien d'autre à dire.
Non, mais est-ce que c'est peut-être une impression, mais ils ne prennent... Ils ont l'humilité de ne prendre personne à la légère. Et quand tu le dis, le match, que le Courtrai, c'était difficile et que OHL, ce sera difficile, il n'y a pas de posture là-dedans. C'est vrai, j'imagine que c'est vraiment ce que dans le club, on pense.
Ça, le staff est derrière aussi, pour justement, et ça, c'est ce que Felice dit aussi après chaque match, c'est, il faut garder les pieds sur terre et il faut voir match par match. Il y a les objectifs pour la saison. Et sur base de ça... Chaque match par match, tu verras bien ce que tu feras, où tu arrives. Et effectivement, c'est un grand nice to have, c'est magnifique pour même pour la com, pour le marketing du club, pour l'union est vraiment de Bruxelles, la fierté.
Tout à fait.
Mais là, il y a une. Vas-y, je t'en prie.
J'ai une question pour Alex. C'est pas trahir un secret. Je voulais savoir, toi qui connais bien l'équipe, qui évolue quand même, je vais pas dire au quotidien, mais quasiment avec cette équipe. Alors, je ne parle pas de mercato, pas mercato. Imaginons que tout le monde reste, d'accord ? Est-ce que tu vois l'Union aller au bout avec le noyau dont elle dispose ?
L'Union ira au bout de la saison, oui.
Oui. Non, je vois
ce que tu veux dire.
Est-ce qu'ils vont pouvoir garder ce niveau-là avec le noyau dont ils disposent ? Et je ne parle pas de blessés, parce que je leur souhaite tout sauf ça. Je ne leur souhaite pas non plus d'être déforcés pendant le mercato.
Le foot, il y a tellement de variables... Chaque jour, d'accord. Etc. Et quand même les matchs. On avait fait un concours de pronostics.
Tu penses qu'ils peuvent physiquement tenir ce rythme-là, les joueurs qu'on voit jouer? Il y en a un qu'on n'a pas encore cité, qui est mon chouchou, je te le disais, on y viendra peut-être. Tu les vois performer comme ça, à ce niveau-là, toute une saison?
Jusqu'à présent, l'Union est la seule équipe en presque, je pense, 130 ans de compétition belge qui, en tant que promue, devienne champion d'automne.
Oui.
Voilà, donc toutes les... Bruges était devant, je crois.
Ouais.
Mais, et puis Leikens est parti aussi.
Mais, ouais, il avait fait 90% du travail.
Tout à fait. Mais non, disons, il y a toutes les statistiques et tous les records sont faits pour être battus. Donc je pense que oui, chaque équipe peut aller au bout.
Je le souhaite, parce que franchement, c'est rafraîchissant de les voir jouer.
Ce serait
pas
exceptionnel.
Mon équipe de cœur avec...
Et alors,
tout le monde sait,
tu disais qu'il y avait un joueur de cœur qui...
Oui, moi c'est Kasper Nielsen. Alors je trouve que tu enlèves ce joueur de cette équipe, ne fût-ce que pour abus de carte jaune, hein. Je ne parle pas de malheur, évidemment. J'ai l'impression que c'est tout l'Union qui va tousser. Ce gars, il est au four au moulin, il est intelligent, il joue simple, il me fait penser un peu, avec les qualités techniques en moins, à Zidane, qui jouait aussi, quand tu regardais le jeu de Zidane, à part les Zidanettes et les roules, machin, mais la plupart du temps, c'était l'option la plus simple, mais qu'il réussissait toujours avec une précision chirurgicale, mais il ne compliquait pas le jeu.
En milieu, fin de carrière.
Oui,
il a eu un...
On est d'accord.
Zidane,
est d'accord.
Il a démarré doucement. Enfin, il a démarré doucement.
Mais c'était intelligent, tu vois, Nielsen.
Ouais, ouais, bien
sûr. Fait penser un peu à Kevin De Bruyne, qui ne complique pas non plus. Il fait des choses auxquelles personne n'a pensé, mais quand tu vois ce qu'il fait, il tape une balle 80 mètres plus loin, c'est pas compliqué à imaginer. Mais il faut le réussir, et ça tombe pile dans les pieds des gars. Et Nielsen me fait penser à ça, qui plus est, un peu comme De Bruyne, il est toujours à la bonne place aussi. Il a marqué quand même 4 buts, je crois, cette saison déjà, sur les 40, donc c'est 10%. C'est déjà pas mal pour un milieu.
Pour un 8, ouais.
Ouais.
Et au-delà de ça, c'est une personnalité géniale.
C'est un capitaine en puissance aussi. Hein.
Le contact, par exemple, c'est une crème. C'est un plaisir de travailler avec lui. Comme tout le groupe, d'ailleurs.
J'ai vu, parce que pour tout vous dire, donc moi qui suis français, qui avait un rapport un peu distant avec la Jupiler Pro League, j'en parle à gauche à droite à des copains français, j'ai dit mais là il faut que tu arrêtes tout ce que tu fais en ce moment, il faut s'intéresser à l'histoire de l'Union, là ce qui se passe cette saison c'est incroyable. Et j'ai vu aussi dans... C'est Marca, je crois, le journal espagnol, qui a fait
Italiens.
Et justement, ma question, c'était ce que tu sens au quotidien, ou est-ce que vous sentez depuis quelques semaines, ou depuis le début de la saison, ou voilà, un intérêt qui va au-delà de la Belgique. Là,
de
ça
Bruxelles.
Commence à éveiller de Bruxelles déjà. est-ce qu'il y a des marques?
Tout à fait. Ouais. Et on a même il y a la FIFA qui a fait tout un post sur l'Union ce midi aussi.
Wow.
Donc c'est quand même plus de 14 millions de followers aussi. C'est gigantesque.
Mais oui.
Non, moi j'ai souvenir aussi de l'Union en Détroit, et je te parle d'il y a 30-40 ans. Et on était en extérieur, il y avait 3, 4, 500 supporters qui suivaient l'Union, toujours. Et ça a toujours été comme ça, sauf erreur de ma part. Alex, tu me démens si je me trompe, mais ils ont toujours un public qui les suit où qu'ils aillent. Quelle que soit la division, je rappelle que l'Union a joué en promotion aussi. Hein,
Il y a toujours ce public qui est fidèle et qui était incroyable. Certes moins en nombre en division 3, mais les Overpeltfabrik, Veltwezel, Sprimon, ils aimaient bien voir l'Union venir parce qu'ils savaient très bien que financièrement, c'était le match de l'année.
Dans un champ de patates.
Non, mais tu le sens, oui. Sur les réseaux sociaux, je pense que on a pris facilement 4-5 000 likes en quelques semaines de temps parce que tu es premier, parce que les résultats sont là, parce que le jeu est chatoyant, parce que les buts sont jolis. Il y a tout ça qui joue énormément aussi. Donc,
j'ai lu quelque part que tous les clubs adorent accueillir l'Union parce que, et on y reviendra probablement puisqu'on parlera de la Ligue 1, j'imagine, tout à l'heure, il y a justement le fait de l'absence, et c'est à souhaiter, de hooligan. C'est un public bon enfant, qui ne scande rien de raciste, qui ne scande rien de xénophobe. C'est jamais contre le public adverse. C'est vraiment c'est du folklore comme on aime le voir, quoi.
Le foot vintage.
Exactement.
Ouais, et à une époque.
Mais c'est dommage que ce soit vintage. Être plus moderne.
C'est vrai que c'est un club qui semble en rupture avec tout ce qui se fait actuellement, que tu parles justement. Bon, là, c'est conjoncturel, j'espère, ce qui s'est passé, ce qui se passe en France, mais ça s'est passé dans d'autres championnats aussi au niveau du public. C'est pas du tout le cas surtout en France. Hein. surtout Marseille. Non. Blaise, si tu nous écoutes. Non, pour le coup, les Marseillais, ils sont pas. C'est les cibles bien souvent, mais il y a ce côté-là, donc les supporters qui n'ont rien à voir avec les supporters d'autres clubs, un stade et un club familiaux par rapport à une époque où on parle de Super League et où seuls les plus puissants auraient droit de citer.
Alors,
c'est chouette, je veux dire, c'est vraiment c'est rafraîchissant, comme on dit.
C'est exactement le mot. Et d'un autre côté, et on en parlait, ou ils en parlaient dans les médias il y a peu de temps, tu prends Eupen, et quand il y a eu les soucis avec le Standard, on a dit la même chose en disant « c'était toi qui disais ça, c'est un public de gens, c'est familial bazar », eh bien, ils apprennent vite, hein. Ils apprennent vite les mauvais réflexes, hein, parce que rebelote ce week-end. Alors, Eupen, c'est quoi? C'est une belle équipe, ils sont dans le sub-top cette année, on espère pour eux le meilleur, je parle au niveau sportif, bien évidemment. Mais comme quoi, un hooligan, deux hooligans, 10 hooligans, eh bien, c'est le Covid-19 des stades de foot, quoi. Ça se propage et c'est une saloperie qu'il faudrait éradiquer, mais au plus vite. Parce que c'est quand même plaisant de voir des gosses dans un stade de foot, quoi.
Disons que pour Eupen, ils ont des supporters de Cologne et Aix-la-Chapelle qui sont pas loin, qui viennent un peu foutre le bordel, pour ainsi dire.
Ouais.
Malheureusement.
C'est vrai
au club, à ce moment-là, puisque ce n'était pas le cas jusque-là, au club de veiller à ça. Je veux dire, il ne faut pas qu'on se pollue encore un des rares espaces de plaisir, de rafraîchissement, où on peut encore s'exprimer, mais dans la bienséance, quoi.
Alors, je ne sais pas si vous avez un avis sur la question, peut-être que je fais fausse route, mais je me dis qu'il y a peut-être est-ce que le fait de ne pas avoir pu, en raison du Covid, sortir, aller au stade pendant longtemps, fait qu'il y a peut-être un trop-plein d'énergie des supporters. Enfin, quand je dis d'énergie, de mauvaise énergie, il n'y a pas de raison pour que subitement, il se passe ce qui se passe dans ce qu'on a vu sur les terrains français, par exemple, assez régulièrement depuis le début de la saison.
On l'a vu en France, on l'a vu en Belgique, on le voit un tout petit peu moins, ou en tout cas c'est moins médiatisé dans d'autres pays, mais je pense, comme ce que tu disais, il y a un trop-plein sociétal de mesures, de règles et surtout d'interdictions, d'un tas de trucs. Et ça se traduit par une frustration chez certaines personnes. Et ça se traduira le plus dans un endroit qui est propice à ça, qui est un endroit émotionnel. Tu vas au restaurant, tu n'auras pas d'émotion à part c'est délicieux ou le cocktail est bon, quoi que ce soit. Au foot, tu auras énormément de joie ou de frustration et ça peut être dans un court laps de temps. Et ça ne justifiera pas, évidemment, le comportement des supporters hier à Lyon-Marseille. Mais tu as une explication là derrière, d'après moi, malheureusement.
Ouais.
Je suis d'accord avec toi. Encore que j'estime que jeter une bouteille d'eau pleine en Ligue 1 sur un joueur à la 4e minute de jeu, je ne pense pas que ce soit l'expression d'une frustration colossale. Je pense que c'est juste des décérébrés qui ont tout sauf leur place dans un stade de foot ou dans un endroit où il y a du public parce que c'est un danger pour les autres et probablement pour eux-mêmes. Et voilà. Et je pense que à force de dire qu'on va faire et de ne pas faire et que les gens savent que c'est une impunité totale et ce n'est pas qu'au foot. Hein, aujourd'hui, tu vas déposer plainte pour insulte raciste quelque part. Tu sais très bien que tu as 99 chances sur 100 et la personne qui va te traiter de sale ceci ou de sale cela, elle sait très bien qu'elle verra jamais le képi d'un policier devant chez elle. Voilà. Il faudrait à un moment donné, faire en sorte que faire un exemple, peut-être, ou des exemples, mais bordel, quoi. S'il vous plaît, laissez-nous rêver et laissez-nous respirer, profiter d'un spectacle qui, parfois, est vraiment magique, quoi.
Mais après, attention, je me souviens, il y a 10 ans, je pense, il y a certains matchs qui ont été arrêtés en Belgique, qui avaient un score à l'avantage de l'équipe visiteuse, que le match a été arrêté 10 minutes pour jet de fumigène, etc. L'équipe visiteuse a perdu les moyens et l'équipe à domicile en a profité. Donc, malheureusement, il y a une certaine force populaire chez les supporters pour pouvoir contrôler certaines variables d'un match aussi. En France, malheureusement, on voit, ça s'est passé à Nice,
ça s'est passé à Lens-Lille.
Ça s'est passé à plusieurs matchs. À Saint-Etienne aussi, je pense.
J'ai l'impression, connaissant un peu la race de ces gens, hein, les Français, ils font un petit concours entre eux. Qu'il y ait un petit concours de celui qui va foutre le plus
de bazar.
Et puis
les médias n'arrangent rien en France non plus. Je pense qu'en Belgique, c'est pareil. Par contre, on peut prendre un exemple. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport de cause à effet. Je ne sais pas du tout quelles mesures ils ont prises. Mais quand tu vois le mot hooligan, ça vient d'Angleterre. On se souvient tous du drame du Hesel, évidemment. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on parle encore de hooliganisme en Angleterre ? Zéro, hein. Et les supporters
pas en première ligue, mais non.
Mais ça, c'est partout. Mais en première ligue,
à Marseille, tu leur parleras d'un fameux Angleterre-Russie. C'était à l'Euro. Où ils ont mis à sac la ville entière.
Okay.
Mais c'est l'équipe. Enfin,
moi, je parle dans le stade. Hein.
Alors, est-ce que la première ligue, c'est parce que
les gens qui sont assis sur le bord du terrain.
On parle du prix des places, peut-être. Est-ce que
la première ligue a pris des mesures car ils ont été interdits de Coupe d'Europe pendant longtemps. Voilà. Et dans les années 90, ils ont pris des mesures. Il n'y avait plus. Maintenant, on revient avec le safe standing, par exemple. Il y a beaucoup de clubs, dont West Ham, dont Manchester United, qui font appel à ça.
Les fameuses places debout.
Mais avant, les places debout, où tout le monde était agglutiné les uns sur les autres. Maintenant, tu as des règles différentes. Tu as plus d'espace, en tout cas théorique, entre les gens Avant, tu avais une tribune qui avait, je pense, c'était 45 cm sur 45 par personne. Là, on est déjà passé à c'est beaucoup plus large.
Par exemple, quand tu avais un but, tu étais dans le club. Tu voulais pas bouger, t'étais obligé, tu suivais la vague. T'étais emporté, quoi.
Il y a toutes ces mesures de sécurité des pompiers de l'État qui ont fait qu'en Angleterre, tu n'es plus debout, tu es assis. Ça calme aussi un petit peu les ardeurs. Il y a moins de tout ça. Et il y a surtout des peines très lourdes pour tout ce qui était hooliganisme. Et du coup, d'un point de vue sociologique, c'est parti du stade vers ça on connaît en Belgique aussi, vers des bagarres dans les bois. Et là, on a envie de dire, bon, tant qu'ils se tapent entre eux, ils embêtent personne. Mais ton problème, c'est déplacer du foot pour y revenir d'une autre forme 20 ans plus tard.
C'est vrai, mais moi je pars du principe, peut-être un peu bisounours, hein, mais que c'est quand même chouette d'aller au stade avec tes gosses et que tes gosses en prennent plein les yeux et qu'ils aient envie en voyant ça d'un jour faire ça. Et c'est pas en allant voir des décérébrés jeter des bouteilles d'eau qu'ils vont avoir le bel exemple. Pardon.
Mais c'est ça qu'il faut dans les stades. En Allemagne, t'as surtout les tribunes famille par exemple. Il ne faudrait pas avoir de tribune famille. Toutes les tribunes devraient pouvoir accueillir des enfants et tout le monde devrait passer un bon moment. Et c'est ça que les stades, depuis plus de 15 ans, les fédérations, les clubs travaillent sur des stades, justement, qui sont beaucoup plus propices pour accueillir des enfants et des femmes. C'était un des grands problèmes au niveau mondial, même avant. Les stades n'étaient pas forcément conçus pour les femmes. Il n'y avait pas assez de confort. Et donc ça a été fait. Il y a un énorme travail. Et je pense que tous les stades en Allemagne, là, pour l'instant, les familles y vont avec plaisir et tout le monde était les uns à travers les autres. Et pour l'anecdote, j'adore aller à Mönchengladbach, en tout cas avant une certaine crise. Mais là, tu es dans tribune sud là-bas. À côté de moi, il y a un gars avec son maillot de Bochum. En face, il y en a un avec un truc de Dortmund. À côté de moi, il y en a un qui est pour Leverkusen parce que c'est Gladbach-Leverkusen ce jour-là. Et c'est dans la tribune de Gladbach. Et tout le monde s'entend bien avec tout le monde. Tout le monde partage même son bretzel avec son voisin. Et tu as cette bonne ambiance et il y a un certain fair play. Et ça manque en France, par exemple, en Belgique aussi pour l'instant.
Ouais.
Ce genre d'animosité est vraiment inutile.
Le PSG, pour revenir à un club que je connais bien, il y a eu ce problème puisqu'il y a eu même des morts entre supporters de la même équipe. Là, c'est encore plus décérébré. Il y a eu le plan qu'on a appelé le plan Leproux du nom du président de l'époque. Et ça a consisté notamment à suspendre tous les abonnements. Donc, il n'y avait plus d'abonnés possibles et il y avait un placement aléatoire. Donc, vous alliez, donc, l'idée était de faire en sorte que vous pouviez plus vous retrouver avec le même noyau de supporters ultra avec lesquels vous aviez... Alors ça a été problématique pendant un temps parce que les ultras, bien évidemment, on le dit souvent, il n'y a qu'une petite minorité de footeurs de bazar et les autres qui font des supers animations, ils se retrouvaient bien frustrés. Le PSG s'est retrouvé avec un manque de soutien. Mais voilà, ça a été ça, plus l'augmentation du prix des places, je pense que ça joue. Mm-hmm. On a bien dérivé
C'est bien, on parle de foot.
Voilà. Si tu veux savoir l'anecdote, en Italie, il y a certains clubs, les présidents, ils offrent des tickets à certains groupes de supporters. Voilà, on vous donne des tickets, vous les revendez pour financer vos actions et vous restez bien calme dans notre stade. Et ça fonctionne à merveille pour certains clubs que je ne citerai pas.
Et ben, moi, je vais en citer un et pensez à lui qui est parti il y a quelques mois. C'était ce qu'avait fait Bernard Tapie à l'OM pour s'acheter la paix dans le stade. Il y avait effectivement les abonnements étaient gérés par les supporters dans les virages. Bon, et voilà, ça permettait
Si ça doit passer par là pour pouvoir offrir du spectacle et que tout le monde s'y retrouve en définitive, why not?
En Italie, ils réussissent à faire rentrer parfois des scooters dans le stade. Je sais pas si vous souvenez
de l'image de Milan.
Vous avez fait tomber un scooter.
Mais les stades sont très vétustes en Italie. Ouais. Et j'en étais à Bologne, par exemple. Il y avait une pluie. J'ai jamais vu ça. Le match, il a continué. Nainggolan jouait d'ailleurs à l'AS Roma ce jour-là. C'était en 2015. Les stades, c'est complètement ouvert. C'est une arène. Donc, tu arrives dans le stade. Tu étais à l'air libre. C'est même très agréable. C'est aussi du vintage football. Mais les stades en Italie sont beaucoup plus propices à des dérives. Mais les dérives là-bas sont nettement plus dangereuses que dans les stades modernes aussi.
Ouais, c'est vrai que l'Italie a... Oui, les stades ont été refaits pour la plupart. C'était sans doute pour la Coupe du Monde 90. Après, depuis, on en a refait certains. Le stade de la Juve qui a pas été une grande réussite quand c'était le stade des Alpi, voilà.
Mais à part la Juventus, à part Sassuolo, Udinese qui a eu un stade rénové, Cagliari est sur un projet, il y a peu de stades qui ont connu aménagements pour ils répondent aux normes FIFA UEFA modernes, mais ils ne répondent pas à toutes les normes de sécurité d'après moi.
Eh bien, on va fermer la parenthèse, le premier chapitre Union qui a dérivé sur l'inverse de l'Union, c'est-à-dire les clubs au public un peu difficile et turbulent. On va passer à un club qui n'a pas un public difficile et turbulent, qui n'a pas de supporters mais des spectateurs, comme tu aimes à le dire, Didier. Je parle bien sûr d'Anderlecht. Anderlecht qui recevait Courtrai, et Anderlecht qui n'a toujours pas gagné. Quand je dis toujours pas, ils n'ont pas gagné cette semaine, ils ont bien sûr quelques victoires cette saison, un but partout.
Au singulier.
Ouais, et on se demande, moi je me demande si Anderlecht y parviendra un jour, en tout cas cette saison. On a vu, moi j'ai du mal à... Ça y est, quoi, j'ai un peu de souper du process, de la croyance en Vincent Kompany, et je vais poser la question comme ça. Est-ce qu'on a affaire à un bon entraîneur ou est-ce que c'est simplement un ancien bon joueur? Je pense à un type que j'adore, vous devez aussi beaucoup aimer pour d'autres raisons, c'est Thierry Henry. Thierry Henry est un footballeur brillant, un type qui connaît parfaitement le football, il le démontre dans ses commentaires actuellement. Quand il a pris les deux équipes qu'il a pris en charge, ça n'a pas été une réussite totale. Alors est-ce que Vincent Kompany, il range dans le même... on peut le classer dans la même catégorie? Parce que là, ça fait quand même 18 mois qu'il est aux commandes. Et on a déjà vu des entraîneurs avec un matériel, comme on dit, pas équivalent au sien, réussir au moins à créer quelque chose. Voilà, mais je voulais pas revenir sur Felice Mazzu, mais là je vois. Et puis Kompany, c'était un défenseur. On se dit, là je sais pas si vous avez vu le but qu'ils prennent.
Prud'homme, c'est un gardien, je veux dire.
Non, mais je veux dire au moins il est venu avec. Le process avec formé un peu par Guardiola, mais un très grand défenseur, donc il va sans doute pouvoir inculquer des principes. Là, le premier but qu'ils prennent, c'est une rigolade. Hachimeru, on se demande ce qu'il fait. Et ils sont 8 joueurs dans la surface, ils ont tous les yeux sur le ballon. Et je sais plus qui est c'est l'Argentin Magallan qui il regarde même pas dans son dos, il touche le joueur, puis après il le lâche, et dans son dos il y a Gueye qui marque de la tête. Enfin bon, c'est...
Après, qu'il soit défenseur et à un tel niveau, parce que c'est quand même un des meilleurs joueurs belges de l'histoire aussi, et même à Manchester City, il a sa statue. Généralement, les gardiens, les défenseurs centraux et les six, ce sont ceux qui deviennent de très très bons entraîneurs. Espérons pour que sa vie aussi à Barcelone, là maintenant, on voit Deschamps, même Deschamps, en Belgique, on voit Sven Hazebrouck, il était libéraux avec sa chevelure blonde dont Didier s'en souvient, je vois.
Il avait la même,
ses entraîneurs.
Ah, ça va aller, oui.
Ses entraîneurs, justement, ils ont une grande vision du jeu et je pense que Vincent, là aussi. Maintenant, il y a certaines variables. On peut se poser des questions sur peut-être le vestiaire. Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que le message ne passe peut-être pas? Est-ce qu'il a une attente peut-être trop grande de ce que ces joueurs peuvent apporter à ce moment-ci, étant très jeunes, manquant d'expérience ou n'ayant pas assez d'expérience en D1? Est-ce qu'il y a le staff qui ne remplit peut-être pas tout à fait son rôle? Est-ce qu'il y a un recrutement? Il y a énormément de variables et puis, qui peuvent expliquer la déroute mauve.
Ouais, je me demande si, du fait des finances du club actuellement, ils construisent un petit peu... c'est du court terme, hein, on l'a vu avec Edmecha l'année passée. Ils se font prêter pas mal de joueurs. Alors, est-ce que ces joueurs-là qui viennent à Anderlecht pour une saison... Est-ce qu'ils ont vraiment est-ce qu'ils s'intègrent bien dans le projet du club? Est-ce qu'ils se disent pas déjà, je suis en partance, déjà dans ma tête un peu?
Bah, Mecha, non, il a montré de belles choses. Mais après, il y a un nouveau capital qui est arrivé aussi il y a quelques semaines. Donc, je pense pas que c'est encore ça le problème actuellement. C'est, de toute façon, même à partir du 31 août, il serait pertinemment. Voilà, ça c'est le staff, voilà. Ça c'est le groupe de joueurs. Et on y va. Mais... Donc je pense pas que c'est, il faut aller chercher les excuses d'un point de vue externe. Il y a peut-être certaines variables que je disais là tout de suite qui jouent l'une contre l'autre et qui font que, après, la carte rouge de Raman ne les a pas aidés face à Courtrai. Et on sait que Courtrai est bien organisé.
Parce que si Raman n'avait pas...
Je sais pas si tu as lu ça. Ouais, c'est exceptionnel. Nous avons un joueur qu'on a interviewé, le Van Hout, pour ne pas le nommer. Et donc, le gars, il sort. S'il n'y a pas la carte rouge, on gagne 4 ou 5-0. Il oublie juste que c'était 0-1 à la mi-temps. Voilà. Donc, comme quoi, les décérébrés, ce n'est pas que dans les gradins.
Mais bon, il était pris dans l'ambiance du truc.
Et surtout dans la communication complètement.
Oui, non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même s'ils avaient marqué, je ne vois pas comment ils pouvaient envisager. Qui marque 4 ou 5 buts.
Justement, à ça, je voudrais quand même donner peut-être mon avis, qui ne vaut que ce qu'il vaut. Concernant Vincent Kompany, je trouve qu'il a un avantage sur beaucoup, c'est que quand il est arrivé, il avait un crédit quasi illimité. Il est arrivé un petit peu comme le Messi à Saint-Guidon. Ça, c'est une chose. Ensuite, c'est un garçon éminemment intelligent. Au niveau belge, on peut difficilement faire mieux. Il parle 4 langues, je pense, couramment. Donc, en termes de communication, c'est pas à toi, Alex, que je vais l'apprendre. C'est juste le nec plus ultra.
Et c'est un gars super sympa aussi. Les interviews,
tout à fait, toute son image. Il est policé de chez policé. Il a une certaine idée du foot.
Il a un crâne très poli aussi. Je l'ai remarqué.
Alors, évidemment, c'est toujours plus facile de critiquer. Évidemment, on dit toujours que la critique est aisée, l'art est difficile. D'un autre côté, je trouve que 1 an et demi, il est en Anderlecht, il faut se poser les bonnes questions. Quand tu regardes, et les noms m'échappent, mais toi, Alex, tu dois t'en souvenir mieux que moi, probablement. Quand tu vois le nombre de personnes qui ont déjà quitté le navire depuis qu'il y est, soit parce qu'on les a invités à quitter le navire, soit parce qu'ils ont une dépression nerveuse, soit parce que, ou X ou Y raison, je veux dire, c'est quand même anormal pour un processus aussi prometteur à la base, ou derrière lequel qui fédérait tout le monde. Et quand tu vois que toute cette convergence de bonne énergie s'est un petit peu dissoute, mais en moins de temps qu'il faut pour le dire, je pense qu'il y a un vrai problème et que Vincent Kompany, parce que moi c'est pas un pote à moi, c'est pas un ennemi non plus, ne se pose peut-être pas toujours la question. Il est convaincu de son truc et j'ai lu encore aujourd'hui dans la presse, on disait qu'il est prêt à mourir pour ses idées. Pourquoi pas? Il y en a d'autres qui au bout du compte y sont arrivés. Je me demande dans quelle mesure le costume d'Anderlecht n'est pas un peu trop grand pour lui actuellement. C'est-à-dire, c'est sa première expérience en tant que T1, même s'il a été sous les ordres de Guardiola où tu apprends énormément, mais on ne s'improvise pas. Ça ne veut pas dire que tous les joueurs qui auront joué avec Guardiola seront des grands entraîneurs. Tu ne peux pas me faire gober ça.
Non, mais tu prends, et je pense que chacun a aussi sa philosophie de foot, ses préférences stratégiques, tactiques, etc. Mais tu prends, d'un Guardiola, tu prends beaucoup de people management, à mon avis.
Là-dessus, on est d'accord.
Quand Guardiola est à Barcelone, et quand il était en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, à Barcelone ou dans des grandes équipes, ils savent jouer au foot. Ils n'ont pas besoin de qu'on leur explique la tactique, ou ils n'ont pas besoin qu'on leur explique constamment qu'est-ce qu'ils doivent faire.
Donc, mais Compagnie voulait apporter ça. Et c'est ça son but. Il a voulu changer le style d'Anderlecht qui était devenu redondant. Et on sait que le public, tu disais que le public n'est pas difficile. Au contraire, il est extrêmement difficile à Anderlecht. Dès qu'il y a une mauvaise passe,
c'est limite. Non, pas difficile dans le sens, ce sont pas des.
Ils sont très difficiles. Ils veulent vraiment un football champagne. Et ils ont raison. Quel supporter n'a pas envie de voir son équipe briller? On est bien d'accord. Anderlecht, à l'époque, avait le plus gros budget de la première division, était le plus gros budget en Belgique. C'était les stars, les là. Et puis ils ont eu du temps constant une politique qui était de pas tellement de se renforcer eux, mais de déforcer tous les adversaires. Ils allaient chercher les talents dans toutes les équipes pour les rapatrier. Ils ont cassé des carrières comme ça.
C'était les mains propres avant l'heure.
Hein. Voilà, mais je pense à Josip Weber notamment, qui a fait banquette. Ils l'ont retiré au Cercle de Bruges. Enfin bref, c'était une politique. Mais le public de Saint-Guidon avait l'habitude de voir, et même nous, qui n'étais pas supporter, je voyais Anderlecht. J'oublierai pas non plus les fameuses épopées européennes, François Van der Elst et compagnie. À Paris d'ailleurs contre l'Austria de Vienne si ma mémoire est exacte, et puis ici même à Bruxelles je pense on a gagné une deuxième coupe des coupes contre une équipe West Ham, je crois, West Ham, tout à fait.
Il y a une histoire d'arbitrage aussi,
mais je veux dire c'était agréable de les voir jouer, ça jouait au foot, c'était rafraîchissant, l'union d'aujourd'hui on va dire d'une certaine manière, et puis ce football c'est vraiment était un peu déliquescent, et Vincent Kompany voudrait redorer le blason. Et ça, je peux comprendre, parce que c'est un Anderlecht boy de la première heure, évidemment. Mais bon, mais force est de constater qu'il n'a pas le matos qu'il faut.
C'est ça. Moi, je pense que je le disais l'an passé, voilà. Mais j'ai l'impression, et moi, je disais ça beaucoup avec les relances, c'est ce qui me... les relances au pied, ce qui est très à la mode maintenant, notamment en raison du changement de règles sur le dégagement ou l'entrée dans la surface. Mais ça nécessite une maîtrise technique de pouvoir repartir de derrière. Effectivement, une fois que vous avez enchaîné deux passes, vous créez le décalage, c'est beaucoup plus facile. Mais encore faut-il réussir à faire ça. Et moi, j'avais l'impression, et c'est peut-être à généraliser sur tout le niveau des joueurs d'Anderlecht, qui n'ont peut-être pas, je vais le dire comme ça, ils n'ont peut-être pas le talent ou les qualités qui serait nécessaire à mettre en place le jeu que Vincent Kompany exigerait.
Je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, j'engage tous les défenseurs, y compris Vincent, mais lui de l'avoir fait, à regarder les matchs de l'Union, à regarder les matchs d'autres équipes plus petites. Quand tu vois les sorties de défense de l'Union, je suis désolé. Et sur le papier, il n'y a pas photo entre les talents qui s'expriment. Ouais. Tu prends une équipe, même comme OHL, quand tu les vois jouer, ça tape pas non plus, ça joue pas à l'anglaise. Hein. C'est pas un ballon qu'on dégage le plus loin possible. Ça sort propre, et parfois même trop, et ils prennent des buts à cause de ça. Mais quand ça sort, bordel, c'est propre, c'est beau. Et donc il n'y a pas de raison, a priori, qu'un Anderlecht ne soit pas capable.
C'est une émission hommage à Philippe Albert. Puisqu'on l'a tous balancé oui, vrai, au moins deux, trois fois le mot, mais allons-y.
Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, je trouve ça un peu facile de dire, OK, il n'a pas le matos, OK, très bien, mais le matos dont il dispose est quand même, a priori, sur le papier, un des meilleurs qui est en Belgique, on va dire, dans le...
Je ne sais pas.
En termes de qualité, le top 4 ou le top 5?
Qualité, talent, oui, mais oui, encore une fois, est-ce qu'il y a assez d'expérience au plus haut niveau?
C'est ça, s'il y a des très jeunes joueurs, ou des joueurs un peu aussi sur le retour, parce que même Rafaelov, il a fait une super,
ça, j'ai pas compris.
Super début de saison.
Parce que là, j'ai pas compris pourquoi.
Super début de saison l'an passé, puis ça s'est étiolé au fur et à mesure. Ouais, et
35 ans, c'est-à-dire
ouais, exactement.
35. Hein.
Après, bon, écoutez, on va.
Par contre, hier, et je termine là-dessus.
Oui, parce que j'aimerais qu'on parle d'un autre club belge.
Tu parlais du process, et j'ai lu, hier, il n'y avait pas un seul joueur issu du centre de formation sur la pelouse. Pas un seul. Donc, il a quand même mis son process un peu de côté. Il n'a pas communiqué là-dessus, mais il n'y avait pas un seul joueur de Nerped qui était sur la pelouse. Et donc, je dis,
j'ai mis
le pavé dans la mare, il y est, et maintenant, essuyez-vous.
Et ben, on va passer au club de Bruges pour la peine. Le club de Bruges, c'était vendredi.
J'ai essayé de gagner du temps.
Eh oui, j'ai vu que t'as essayé, mais ça ne marchera pas. Il se déplaçait à Malines vendredi.
Non, tu verras que je suis fair-play.
2-1 pour les Malinois. Et une nouvelle fois, les Brugeois ont galvaudé une avance au tableau d'affichage. Ils menaient 0-1. Une nouvelle fois, les Brugeois ont manqué d'efficacité devant le but. J'ai noté 17 tirs, seulement 5 cadrés.
Une nouvelle fois, les Brugeois ont fait preuve de fébrilité derrière. Je pense à Mata qui couvre sur le but de l'égalisation, sur Nsoki qui joue avec le feu sur une relance. Et malheureusement, sur Mignolet qui, encore une fois, se loupe. Là, il reste un peu les crampons plantés dans le sol. Je pense que bon, c'est juste une mauvaise... voilà, il est c'est juste pas lui, le manque le geste, de timing.
C'est pour lui le but, c'est vrai, mais le geste est un geste de génie. Hein.
Oui, non, c'est une petite louche de Rob Schoofs.
C'est pas une louche, c'était un tir lobé, c'était juste une pure merveille.
À la cantonnage, si vous vous souvenez, Bruno Fernandez a dit un peu le même, mais c'est vrai que là, du coup, il est resté un peu planté sur ses appuis Mignolet,
et il n'a pas eu l'impulsion. Pour la mettre,
hein. Voilà, il n'a pas eu l'impulsion. Et par contre, pour la première fois, et ça, c'est une nouveauté. C'était la première fois de la saison, j'ai regardé ça, j'ai pas remonté en Jupiler Pro League, je suis pas remonté à la saison passée, mais c'est la première fois que les Brugeois ont pas eu la possession de balle, l'avantage, c'était 55-45 pour Malines, ils avaient toujours au moins l'avantage. Que se passe-t-il à Bruges?
Alors ce qui se passe à Bruges, je peux pas te répondre.
Ce qui se passe à votre avis?
En termes de supporters, il se passe qu'ils sont dans le creux de la vague selon moi, il se passe que des joueurs... cadres que sont devenus, malgré qu'il est depuis peu de temps, mais c'est quand même un cadre, hein. Un joueur comme Noah Lang, bourré de talent, il n'y a rien à dire, ça personne ne lui conteste, mais j'ai l'impression qu'il est en train de faire ce qu'on craignait et ce que nous craignions l'an passé en parlant de lui, en espérant qu'il ne chope pas la grosse tête, et j'ai l'impression que c'est en train d'enfler pour l'instant. Charles de Ketelaere est un peu fatigué, on le sent effectivement émoussé, non pas dans l'envie, parce qu'il mouille le maillot en permanence, et c'est triste à dire, mais le danger vient souvent de lui quand même, mais de manière un petit peu moins récurrente que dans les matchs quand il est hyper flamboyant. Vormer, bon ben, il y a probablement au sein du groupe, mais ça, peut-être qu'Alex a des infos là-dessus.
Au niveau individuel, il y a sans doute peut-être certains joueurs qui sont moins bien que d'autres, comme ça arrive dans des moments de la saison. Là, on parle de Noah Lang, de Charles de Ketelaere.
Mais parce qu'ils nous ont habitués à tellement bien. Moi, il y a un joueur que j'aime moins à Bruges depuis qu'il est arrivé, parce que il alterne le bon et le très bon et le très mauvais. Et le très mauvais, c'est pas du tout qu'il est pas capable.
C'est
Nsoki.
Ah ouais, Stade Nsoki.
Pour moi, c'est Nsoki et ça vient du PSG.
Mais ça n'a rien. Moi, je l'ai jamais aimé.
Voilà. Non, mais voilà. Mais je pense.
Non, je l'ai pas. Je l'ai jamais aimé.
Il nous a sorti un match époustouflant contre le PSG, si ma mémoire est bonne, et Alexis aussi. Mais en dehors de ça...
C'est un joueur de Coupe d'Europe, monsieur. Voilà,
ben oui, PSG, le nombre de buts qu'on prend,
de cartons rouges, hein.
Où il nous met en danger, enfin quand il nous met, où il met Bruges en danger ou en porte-à-faux, dû à son indolence et à une espèce de suffisance, moi je serais Philippe Clément, c'est banquette, quoi. Désolé.
Après, à la décharge de Stanley Nsoki, j'ai l'impression que tu as cette suffisance générale.
Oui, je suis d'accord
avec tous les Brugeois.
Mais pas Hans Van Aken, par exemple.
Tout le club de Bruges, non, mais.
Pour moi, pas un Van Aken.
Un joueur ou deux joueurs, ou même.
Mata.
À partir du moment où tu as quatre joueurs qui ont une certaine suffisance sur le terrain, tu es déjà quand même déforcé, ne fût-ce que psychologiquement. Ouais. Tu crées des frustrations auprès de tes partenaires, par exemple. Et j'ai l'impression, c'est les matchs. Bruges n'arrive pas à se motiver pour l'instant pour la compétition belge. Et il disait sur Sportza la même chose ce matin dans l'analyse de Peter Van den Bemt, commentateur Eleven. Il y a cette suffisance auprès de beaucoup de top clubs pour l'instant qui se disent, bon,
les play-offs... Il y a beaucoup de Hollandais à Bruges.
Peut-être, mais il y a les play-offs qui arrivent et ils devront faire un pic dans les play-offs. Mais à ce moment-là, si on est objectif, on a vu les play-offs de Bruges l'année passée, ils n'étaient vraiment pas bons.
Pas là,
ben, je vais te dire la vérité, moi je suis supporter de Bruges, ça n'aura échappé à personne.
Personne.
Eh bien, honnêtement, de ce que je vois pour le moment, je suis content qu'ils ne soient pas premiers, parce que clairement, ils ne le méritent pas.
Ça donnerait
sur le football produit, oui, par moment, c'est notamment en Coupe d'Europe, par moment c'est plaisant d'être supporter de Bruges, mais par rapport à ce qu'ils sont capables de faire, parce qu'on les a vus et on les sait capables de le faire, c'est pas genre ils devraient faire mieux, on sait qu'ils savent le faire, franchement, c'est y a foutage de gueule, j'ai envie de dire, pour les gens qui ont payé leur abonnement.
Oui.
Pour certains d'entre eux.
Mais surtout, c'est une constante dans des clubs qui ont un potentiel matériel joueur qui est... en moyenne plus haut que le reste de la compétition, je ne comprends pas qu'il laisse filer autant de points.
Je suis d'accord.
Par l'attitude, ce n'est pas par le talent. Parce que tous ces joueurs savent jouer. Nsoki, que tu as cité, il sait exactement comment il doit défendre. Il a une formation au PSG. Ceux qui sortent du PSG, ils savent ce qu'il doit faire.
Mais quand il joue bien, il est exceptionnel. Hein. On est bien d'accord.
Mais tu as cette suffisance, tu as ce manque d'envie, on a l'impression, de l'extérieur. Et pourtant, il te sort des matchs comme à Leipzig, comme le PSG, comme contre Manchester City, pardon. C'était malgré un 4-1 ou un 5-1. Bon, c'était
quand même. On n'avait pas à rougir, tout à fait.
Est-ce que vous pensez justement que les bons résultats en Coupe d'Europe, enfin les belles performances et le bon classement actuel en Ligue des Champions de Bruges, peut leur faire perdre un peu la motivation en championnat?
Je ne crois pas. Ça ne devrait pas, en tout cas.
Comment? Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Non. Mais j'ai quand même l'impression que c'est.
Non,
ce
mais
je
vois.
L'extérieur.
Je vois.
Alors
en comparant
là,
avec le.
Staff réagisse,
je vois ça
dans l'ADN du
en
club.
En comparant
ça.
Avec le Paris Saint-Germain, qui est complètement focus sur la Ligue des Champions et alors il continue à gagner parce qu'il y a
une 13 points d'avance.
Non, mais c'est ça. Il y a une différence de quand tu alignes Mbappé et Messi, mais toutes les victoires quasiment depuis le début de la saison en championnat sont douloureuses.
Oui, je suis d'accord.
Ils menaient 1-0, ils doivent tuer le match. Ils marquent à la deuxième minute, ils en prennent un à la 75e.
Mais ils gagnent.
Et ils finissent par le gagner. Non, mais c'est la différence sans doute à 10. Bon, oui. C'est la différence. Le talent est quand même important, mais psychologiquement, voilà, si vous êtes focus sur la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, en se disant peut-être le championnat est encore long, il y a les playoffs, c'est pas dramatique si on perd un point contre deux points, trois points contre Malines qu'on perd ici et là.
Ouais, mais il y a une énorme différence. Je trouve qu'en France, par exemple, si je parle sous votre contrôle, en Belgique, il n'y a qu'un seul club qui est qualifié directement pour les poules de Champions League. Hein. En France, je pense qu'il y en a déjà deux. Plus deux optionnels, un, donc ils peuvent y en avoir trois. Chez nous, c'est pas pareil. Donc, je veux dire, chez nous, tu peux pas galvauder ton championnat au profit d'une coupe que tu sais très bien qu'au fond,
oui, mais
toi-même, tu vas pas la gagner.
Tu
pas le rêver.
Ouais, mais quand tu as fait match nul contre le PSG, que tu as battu Leipzig, et que tu
en prends neuf.
Non, tu en prends neuf peut-être, mais Leipzig, ils ont toujours qu'un point. On leur promettait zéro point et de sortir dès le mois de décembre. Ils ont en tête maintenant que que si tout tourne bien, ils peuvent même avoir une finale qualificative à jouer au Parc des Princes au dernier match et on ne sait jamais ce qui peut se passer. OK, ils peuvent se dire c'est dans un deuxième temps de la réflexion qu'on se dit oui, mais il y a qu'une seule place qualificative à la fin de la saison pour la prochaine Ligue des Champions. N'empêche que maintenant dans 6 jours, dans 5 jours, je joue contre Leipzig à Leipzig, peut-être que je me dépouille pas contre Malines. Non non,
je
mais
parle
moi
du
je parle
staff, c'est le staff qui doit motiver les joueurs.
Oui, mais il y a un moment où le staff, il est pas sur le terrain et est-ce que alors Bas Dost, il va se courir dans tous les sens parce qu'il a pas été titulaire, mais est-ce que Noah Leng est-ce qu'il se dit pas vaut mieux que je garde ce que j'ai dans les chaussettes pour le match contre Leipzig plutôt que de tout donner. Je sais pas, c'est une
peut-être, mais si c'est ça, c'est lamentable.
Je pense que c'est inconscient. Mais par exemple, tu cites
inconscient. Non, moi je crois pas à l'idée. Je crois pas à l'idée de
qui recule.
Non, je crois pas à l'idée parce où les supporters disent parfois ils ont pas l'envie. Ça, j'y crois pas. Ça existe pas. C'est inconscient comme tu le dis. C'est sans doute inconscient de se dire le rendez-vous du moment présent. Il est un peu éclipsé, occulté par celui qui va arriver dans 4-5 jours où tu te dis, être contre Leipzig, je vais être contre City, et bon.
Moi, je serais plutôt d'accord avec toi si tu évoques le fait de ne pas se blesser. La peur de se blesser, de ne peut-être pas mettre le pied en se disant, je veux pas compromettre ma vitrine dans 3 jours. Là, je pourrais te rejoindre. Mais au niveau de gagner un match, parce qu'il faut pas oublier, j'imagine qu'il y a des primes de match, il y a des primes de victoire, ils vont pas travailler comme on va à la mine, hein.
Non.
Ils ont leur salaire mirobolant, plus des primes, donc c'est quand même motivant. J'imagine qu'on leur donne pas 200 euros par point gagné, hein. Donc, sinon, ils se lèvent même pas le matin, donc,
Ouais, mais ça, je crois pas.
C'est au niveau de la motivation.
L'argent, j'y crois pas. Ça voudrait dire qu'il y a aucune personne qui est bien financièrement dans sa vie, qui pourrait avoir une dépression, par exemple, parce qu'il a tout est.
Non, ça je dis pas. Mais
donc, si tu vois le raisonnement, c'est de se dire c'est quoi leur motivation.
Sportif, tu es compétiteur, tu as toujours envie de battre le gars qui est en face de toi. C'est aussi inconscient. Je veux dire, tu vas jouer au ping-pong demain, toi et moi, on va jouer au ping-pong. Il y aura pas d'enjeu, il y a rien. Tu vas vouloir me battre et je vais vouloir te battre.
Ok,
c'est
mais
comme ça, hein.
On va se défoncer. Si t'es professionnel et que tu vas jouer un match de coupe à l'extérieur contre une mauvaise équipe, sur un terrain pourri, est-ce que tu te dis bon, est-ce qu'il faut que je me donne est-ce que j'ai
là,
besoin de me donner à fond?
Là, tu fais allusion à la Coupe de France, j'imagine.
Voilà.
Mais la Coupe de France, en tant que joueur professionnel, si c'est pour la Coupe de France qui n'est pas tout à fait applicable à la situation dont on
parle,
tu vas dans un, généralement, tu vas dans un petit stade, sauf si l'équipe est délocalisée dans un, dans l'arrondissement, à Nantes par exemple, pour les petites équipes qui tournent autour, ils vont à la Beaujoire, il y a 40 000 personnes qui vont voir la petite équipe. Là, ok, ça va, mais dans un tout petit stade, parfois, t'es dans un vestiaire vétuste, tu es dans un, sur un terrain pourri. Donc, en tant que joueur professionnel, un, tu fais beaucoup plus attention. Deux, tu as cette certaine suffisance de nouveau et cette sous-estimation de ton adversaire qui, lui, sera 400% motivé parce que c'est le match de l'année, si pas de sa vie. Mais ici, tu vas à Malines et en Bruges, par exemple. Normalement, tu mènes 0-1, tu fermes boutique ou tu essaies de fermer boutique.
Oui.
Et là, il y a comme tu disais, le staff, mais aussi les joueurs clés, les leaders de l'équipe dont tu parlais. Et quand on voit le deuxième but, par exemple, je me demande s'il n'y a pas une erreur de placement du gardien. Et il y a tous ces petits facteurs qui font, face au Standard, il y a deux semaines, si je ne m'abuse, c'était la même chose.
Mais là, il menait 2-0.
2-0.
Ouais. Tout à fait, mais c'est une constante. Et ce qui est dangereux dans le foot, par expérience, il y a une constante qui fait que premier match contre Eupen, tu mènes, tu ne gagnes pas. Et c'est je ne peux pas les citer, je n'ai pas suivi. Mais en tous les cas, on en parle déjà. Il y a déjà 4 matchs, et je me demande au HL ou au Stand aussi, si ça ne fait pas partie du tas. On est déjà à 5 matchs. Et là, psychologiquement, c'est quelque chose que je crains, les joueurs vont traîner jusqu'à
la maison
en
plus cette année. D'habitude, Bruges à la maison est intraitable. Cette année, c'est vraiment pas ça. Après, quand ça joue bien, ça joue solidement bien. Et pour revenir à ce que tu disais, l'erreur de Mignolet, c'est vrai qu'il est positionné beaucoup trop loin. Mais ça, c'est le risque de son jeu. Moi, je ne comprends pas comment il n'a pas encore pris un ou deux buts d'un lob de loin, parce que là où il joue, par moment, c'est presque suicidaire. Mais force est de constater que c'est efficace, parce que le nombre de points qu'il nous a gagné déjà, c'est compliqué de lui en vouloir à mort. Pour...
C'est pas une question d'en vouloir, c'est une analyse. Et quand tu sais que finalement ça se passe déjà moins bien, back to basics. Et
on est d'accord.
Tu fais doublement attention.
Tout à fait.
Il nous reste très peu de temps, comme d'habitude, on se laisse déborder. On va fermer la page Jupiler Pro League. En rappelant un peu le classement quand même, l'Union Saint-Gilloise première avec 7 points d'avance sur l'Antwerp et le club de Bruges.
3,5 monsieur.
7 pour le moment, Malines pour l'instant serait le quatrième qualifié pour les play-offs 1, play-offs 2 ce serait Charleroi qui a le même nombre de points que Malines, 26, puis il y a déjà un petit trou, Anderlecht 22 points, et suivent la Gantoise et Genk 21. On reste avec le club de Bruges parce que cette semaine, on a bien sûr la Ligue des Champions qui reprend. Les Brugeois, tu disais qu'ils sont intraitables au Jan Breidel Stadion. Ça va être l'occasion de le prouver une nouvelle fois puisqu'ils reçoivent Leipzig. Ouais. Le match nul pourrait leur suffire pour assurer une place en Europa League en février.
Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle dans la mesure où, comme on disait inconsciemment, je ne sais pas. J'espère qu'ils vont partir comme un 0-0 et qu'ils vont jouer pour la gagne. Et puis on verra, parce que Leipzig, il ne faut pas oublier, quand on est allé là-bas, on a fait un gros match, enfin on a fait une grosse première mi-temps, parce que la deuxième mi-temps, on était à genoux, mais il ne faut pas oublier que Leipzig était dans un OFD impressionnant ce jour-là, et dans une période. Après, ils se sont repris, malgré qu'ils ont aussi perdu le week-end dernier.
Après, le club de Bruges, à domicile, ce genre de match, généralement, le public déjà répond présent, les joueurs aussi. Il y a cet engouement, cette atmosphère très spéciale qui caractérise le club. Et je me souviens en 2006, ils étaient dos au mur face au Standard. Ils devaient gagner une finale de coupe pour être européen, sinon ils l'étaient pas depuis quelques années, etc. Dos au mur, le club peut le faire. Et j'espère de tout cœur qu'ils vont le faire pour le football belge. Parce qu'on a le coefficient. Gand est qualifié, mais il y a encore Bruges, Genk et Antwerp. Très mauvaise posture, l'Antwerp. Ça dépend de l'avenir européen. Donc,
de ce que j'ai vu hier, c'est pas de bon augure pour l'Antwerp. Hein.
Mais ils sont déjà quasi éliminés, l'Antwerp, malheureusement.
Mais... L'avantage peut-être aussi, dont bénéficiera Bruges, c'est que l'adversaire du jour est pas du tout à la place qu'il espérait en début de saison et qui peuvent encore sauver. Donc Leipzig peut encore sauver sa campagne européenne en commençant par faire un bon résultat à Bruges. Comme c'est une équipe qui aime attaquer, qui aime toujours attaquer, voilà. Est-ce que avec Bruges aura sans doute. Est-ce que ça va être à Bruges de dicter le tempo? Alors certes, ils seront à domicile, mais est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à dicter le tempo? Le match nul les laisse à 3 points devant.
S'ils font match nul, ils passent l'hiver européen, quoi qu'il arrive.
Voilà.
Ça, c'est une évidence, puisque
c'est au golavirage particulier qu'ils ont gagné.
Et puis aussi dans les matchs, les confrontations.
C'est ce que je. Voilà.
Donc.
Oui, confrontations directes.
À mon avis, s'ils partent sur l'idée de faire un match nul, je vois bien le 0-0 et dans le money time, prendre un but venu de nulle part, c'est trop dangereux. Moi, je jouerais crânement ma chance, sans non plus foncer tête baissée. Mais Bruges, c'est pas dans son ADN de garder un résultat. La preuve, c'est qu'ils sont pas capables de le faire, jusqu'à preuve du contraire. Ils sont, c'est vrai, tout chaque fois qu'ils ont essayé de garder un résultat, sauf en jouant contre vraiment des moins bonnes équipes, ils sont pas capables de garder
un... Et ben, la meilleure des choses, c'est d'encaisser un but et de revenir au score.
Ah, non.
On joue avec les nerfs des supporters, là.
Ah, hein. Oui. En tout cas, mercredi, je sais ce que je fais.
Mercredi, tu sais ce que tu fais, moi aussi, puisque je regarderai le PSG face à City. Il y aura d'autres matchs à observer. On regardera donc City face au PSG sans Kevin De Bruyne qui est sur la touche à cause du Covid. Ouais. Et je sais pas pour vous, mais j'aurai un œil attentif sur le Barça qui recevra Benfica avec le premier match européen de Xavi.
Tu as vu, le Covid de Kadibi. Koundé Castells aussi, Thorgan Hazard aussi. Et maintenant, à qui le tour ?
À qui le tour, voilà. Des longs clés barcelonais avec Xavi en Coupe d'Europe pour la première fois. Ils sont pour l'instant plutôt en bonne position. Ils comptent 2 points d'avance sur Benfica. Mais ils n'ont pas intérêt à se louper car ils termineront à Munich contre le Bayern. Et ça pardonne généralement assez peu là-bas. Donc ils ont intérêt à se qualifier dès cette semaine. Écoutez, c'est beaucoup trop court, mais on arrive au
bout. Mais c'est rythmé.
Et c'est rythmé. Il est 21h, on était ravis de passer cette heure avec vous. Alex, merci, plein de bonnes choses encore pour ce que tu sais. Hein. On va pas, pour ceux qui craignent un peu la poisse, on va pas dire beaucoup de choses sur le futur du club.
On leur souhaite que le meilleur.
Voilà. Match par match.
On prend match après match.
Et Didier, toujours aussi beau à voir.
Pareil pour mercredi, plein de bonnes choses.
On croise les doigts, de toute façon, au pire des cas, dimanche, on se retrouvera contre l'autre malade de Jupiler Pro League, c'est-à-dire Genk.
Voilà.
Et puis voilà, ça promet d'être un match à couteau tiré aussi. On verra bien, lundi prochain.
Bonne soirée à toutes et à tous.
Salut.
Au revoir. Take my breath.
Retrouvez-nous sur radiojudaica.be.
J'aimerais ton avis, dis-moi ce que ça fait d'affronter la vie. On peut tout entendre, on peut tout subir, on est fait ainsi. Si c'est difficile, ça nous fortifie, on peut s'en servir. Ça doit être le ciel qui nous fait un signe. Si l'on rit, parfois jusqu'aux larmes, c'est que bien souvent le bien se trouve dans le mal. Si on hésite, c'est qu'on a le choix. Je suis certain qu'on est sûr de rien. On verra bien, on verra le bien, le tout dans le rien, l'infini dans chaque fin. On verra bien, on verra demain, ce que l'on retient fera ce que l'on devient. Le cœur est magique, il recousse ses blessures au fil doré. Cherche la lueur et insiste, t'es encore plus beau rafistolé. T'as l'impression qu'il t'affronte, rassure-toi ses plans sont parfaits. Je vois la vie comme un conte, où jamais le méchant peut triompher. C'est qu'un mauvais quart d'heure, au pire un quart d'année, ou un quart de vie, peu importe, c'est bientôt terminé. La lumière est là, ferme les yeux pour mieux la voir. On verra bien, on verra le bien, le tout dans le rien, l'infini dans chaque fin. On verra bien, on verra demain, ce que l'on retient fera ce que l'on devient. On verra le bien, le tout dans le rien, l'infini dans chaque fin. On verra bien, on verra demain, ce que l'on retient fera ce que l'on on verra bien, le bien dans le rien, l'infini dans chaque fin. On verra bien. On verra demain, ce que l'on retient fera ce que l'on devient.
Mais qui peut dire femme, d'être femme. Si j'existe, ma vie, c'est d'être femme, d'être femme. Sans répit, jour et nuit, c'est d'être femme, d'être femme. Si j'existe, j'existe, c'est d'être femme, d'être femme.
De FM.
Yeah. Pense d'âge. Le doigt toujours.
Tu veux faire le tri chez tous tes potes. Dis-leur que tu ne vas plus rien payer. Ma fille n'aura pas besoin de dot. Mais Marie viendra quand même donner. Toujours une frayeur pour me faire sursauter. La haine me laissera pas l'oublier. Tu donnes ta parole, respecte le code. Les mots faut savoir les assumer. J'ai débarrassé les corps. Le travail est magnifiquement fait. Peut y avoir un désaccord. Mais courir dans le camp opposé.
Jamais.
Toujours soigné quand on sort. Jamais compter combien de temps paye. On peut kiffer sur ton corps. Mais t'auras pas l'accès VIP.
En vrai.
Tu sais quand je réussis, c'est tous ceux qui me suivent qu'on réussit. On n'a qu'une règle ici, pas de veste réversible dans ma visible. Tu sais quand je réussis, c'est tous ceux qui me suivent qu'on réussit. On n'a qu'une règle ici, pas de veste réversible dans ma visible. Yeah. Je ne sais pas revenir sur mes pas, pas, pas. Si t'es parti, s'il te plaît, ne reviens pas, pas, pas. Je ne sais pas revenir sur mes pas, pas, pas. Suis mes pas, 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 mais ne reviens pas. Je ne sais pas revenir sur mes pas, pas, pas. Si t'es parti, s'il te plaît, ne reviens pas, pas, pas. Je ne sais pas revenir sur mes pas, pas, pas. Suis mes pas, 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 mais ne reviens pas.
On va me parler de la bonne époque. Mon époque à moi, c'est maintenant. Plus de 4 piges dans le top. J'ai ouvert la porte aux concurrents. On fait de l'argent pour tout oublier. Comment tu veux que je reste rancunier? Meilleur élève, meilleure école. De section d'assaut, j't'ai l'écuyer. Même si t'es pas dans mon cœur. Si tu dis qu'il y a du bif à faire, tu peux m'appeler docteur. J'ai soigné la plupart de tes plaies.
Je le sais.
Ma trompe me donne plus l'heure. Elle fait que me rappeler que le temps,
c'est cher.
Tu n'entends pas le moteur. L'alphabet pour moi, c'est GTA.
MG. C'est tous ceux qui me suivent qu'on réussit. On n'a qu'une règle ici, pas de veste réversible dans ma visible. Tu sais quand je réussis, c'est tous ceux qui me suivent qu'on réussit. On n'a qu'une règle ici, pas de veste réversible dans ma visible. Je ne sais pas revenir sur mes pas, pas, pas. Si t'es parti, s'il te plaît, ne reviens pas, pas, pas. Je ne sais pas revenir sur mes pas, pas, pas. Suis mes pas, 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 mais ne reviens pas.
Let's go.
Je ne sais pas revenir sur mes pas, pas, pas. Si t'es parti, s'il te plaît, ne reviens pas, pas, pas. Je ne sais pas revenir sur mes pas, pas, pas. Suis mes pas, 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 mais ne reviens pas.
Are you with me?
The Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Listen to the mariachi play at midnight.
Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me?
Eso es un par de mío, jamón. Sí. Ay, ay, ay.
J'attendrai pas demain. J'aimerais que toi tu fasses de même. Je vais te montrer le chemin et t'accompagner à tout jamais. Elle vient du pays de Neymar. Elle danse la Macarena. Je lui fais des blagues, elle casse des bars. Elle sourit, je perds les pédales. Bébé, so je dribble. Elle a beaucoup de prétendants. Et puis ça, tu crèves l'écran. J't'ai vu dans un film, dans un roman. Bessamé, si Bessamé, c'est ma meuf, pas mon ami. Dis-moi non ou dis-moi oui. Fais-moi juste tourner la tête. Lé, lé, ou lé, lé. Ton cœur et mon cœur, c'est lé. Lé, 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 ou lé, lé. Ma gadi, ma mou.
Mais je la suis quand même. Elle me demande où je veux aller. Elle lit dans mes yeux. Vu qu'on a sonné, c'est emballé. Depuis mon ciel est bleu. Répéto, je dribble et je mens. Elle a beaucoup de prétendants. Et puis t'as, tu crèves l'écran. T'es vu dans un film, dans un roman. Bessamé, si Bessamé, c'est ma meuf, pas mon ami. Dis-moi non ou dis-moi oui. Fais-moi juste tourner la tête. Just tourner la tête, les, ton cœur et mon cœur, c'est
et mon cœur, ouais.
Judaïka, 90.2 FM.
I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Center of attention, you know.
Je suis dans tes bras.